Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr à la réécoute et en podcast. L'audition du procureur Robert Mueller par les parlementaires américains n'aura finalement pas fait trembler le président Donald Trump. Alors que le pays entre de plein pied dans la campagne pour les présidentielles de 2020, les interrogations sur l'ingérence russe en 2016 et les éventuelles obstructions à la justice de l'actuel locataire de la Maison-Blanche hantent toujours le débat. La radicalisation de la politique et des oppositions promettent des mois futurs agités. États-Unis d'une campagne l'autre, on en parle à 13h15 avec Laurence Nardon et Yasha Munk. Mais avant cela, nous allons nous pencher sur le projet de loi relatif à la bioéthique, présenté cette semaine en Conseil des ministres, fruit d'un débat national, du travail des députés et d'experts, d'une promesse politique d'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Cette loi a été élaborée d'une façon bien spécifique, laissant marquer une particularité française en la matière, de là à dire qu'il existe une bioéthique à la française. On en parle tout de suite dans cette première partie du magazine du week-end.
Je souhaite rappeler aujourd'hui que nous étions obligés de réviser les lois de bioéthique par la loi tous les 7 ans. Effectivement, dans cette loi, il y a plusieurs thèmes. Le thème de la procréation, le thème des greffes d'organes, de cellules, de tissus, le thème de la génétique et le thème de la recherche.
Il me semble que nous avons aussi la ferme volonté d'avancer juridiquement et de prendre appui sur ce que veulent tant de femmes.
Comme législateurs, nous avons le devoir de fixer des limites à ce qui serait des tentations démiurgiques. Je veux pas que dans quelques années, on se réveille hagard dans un monde transhumaniste où l'on créerait des bébés sur mesure.
Ces principes éthiques, c'est ce qui fonde aujourd'hui les lois de bioéthique à la française. Nous sommes un des seuls pays à disposer de lois pour encadrer les techniques médicales et le progrès scientifique. Et quand on regarde si ces valeurs éthiques sont mises en tension par la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, on s'aperçoit que cela ne pose aucun problème éthique.
Ce n'est pas parce que la science peut qu'elle doit modifier l'être humain.
Ce texte a été vraiment bien préparé, bien travaillé. Maintenant, le débat parlementaire aura lieu. Et c'est normal, et chacun pourra exprimer ses positions à cette occasion.
Le débat est donc lancé. On a entendu Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Guillaume Larrivé, qui est député Les Républicains et opposé à la loi telle qu'elle se présente, la loi de bioéthique telle qu'elle se présente. Il y avait aussi Franck Meyer, porte-parole du collectif des maires pour l'Enfance, à une conférence de presse donnée avec la Manif pour tous. Et enfin, Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a entendu les position assez tranchée des uns et des autres. Le projet de loi relatif à la bioéthique a donc été présenté cette semaine en Conseil des ministres par la ministre des Solidarités et de la Santé, donc Agnès Buzyn. On a beaucoup parlé déjà de l'ouverture de la PMA à toutes et à tous, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui s'inscrit dans l'évolution de la famille et de la filiation connue depuis plusieurs années. Mais le texte qui sera débattu à l'Assemblée nationale à partir de septembre comprend 32 articles qui touchent aussi à la greffe et au don d'organes ou encore aux questions posées par les évolutions de la recherche, par exemple sur les embryons ou les cellules souches. L'exposé des motifs est clair, il s'agit à la fois de valoriser une méthode, organiser un débat national, passer par les représentants du peuple et pas par un comité d'experts, et d'affirmer une philosophie qui se résume ainsi, chercher ce point d'équilibre entre ce que la science propose, ce que la société revendique et les valeurs fondamentales qui soutiennent l'identité bioéthique de la France. Mais justement, existe-t-il une bioéthique à la française? Eh bien, pour en parler, deux invités. Jean-Louis Touraine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député du Rhône et rapporteur de la mission d'information sur la révision de la loi bioéthique. Vous êtes aussi professeur de médecine, praticien hospitalier, spécialiste des transplantations et d'immunologie. Vous êtes en duplex actuellement de Lyon depuis les studios de France 3 qu'on remercie évidemment de vous accueillir. Emmanuel Hirsch, bonjour.
Bonjour, Raphaël Bourgois.
Vous êtes ici à Paris avec nous en studio. Vous êtes professeur d'éthique médicale, professeur des universités à l'université Paris-Saclay où vous présidez le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Alors, je vais risquer quand même une petite définition très générale de la bioéthique et on va affiner évidemment avec vous deux au cours de cette émission. La bioéthique, c'est évidemment apporter un cadre à l'ensemble des interventions techniques sur le corps humain qui soulève un certain nombre de questions éthiques, bien évidemment. Quelle était, Jean-Louis Touraine, votre lettre de mission? Êtes-vous satisfait du travail accompli à l'issue de celle-ci, qui est donc la première étape, hein, avant la discussion à l'Assemblée nationale, je le disais à la rentrée, de cette nouvelle loi de bioéthique, une révision qui intervient tous les 7 ans, comme le rappelait Agnès Buzyn dans le petit son qui a ouvert cette émission?
Oui, je crois qu'on pourrait dire que rarement une loi aura été autant préparée, avec des débats publics, des débats parmi les experts, des débats du Conseil national d'éthique, au niveau du Conseil d'État, mais surtout ces grands états généraux de la bioéthique de l'an dernier. Et puis les parlementaires eux-mêmes ont conduit de nombreuses auditions et une mission parlementaire aboutissant à la rédaction d'un rapport de 350 pages qui se penche sur les sujets soulevés cette année dans la bioéthique. Au bout du compte, on aboutit tous ensemble de façon assez large, non pas consensuelle, parce que ça n'a pas de sens en bioéthique, mais d'une façon assez large, à trouver une bioéthique, on va dire, du juste milieu, du point d'équilibre d'une société. Il ne faut pas, effectivement, que cette bioéthique évolue seulement sous l'influence de quelques spécialistes, de quelques bioéthiciens, de quelques chercheurs, de médecins, de juristes. Il faut que ce soit la représentation de la société qui fasse évoluer les choses. Et de fait, nous ne sommes pas du tout là dans une révolution, mais évidemment dans une évolution significative, parce que beaucoup de sujets sont maintenant à maturité. Et je pense que l'évolution de la bioéthique à la française, comme vous le disiez, est tout à fait bien encadrée, permettant qu'il y ait demain des lois permettant à chacun d'accéder à des progrès sans pour autant risque de dérapage. Et je termine cette introduction en disant que nous sommes loin des risques de transhumanisme que j'ai entendu il y a quelques minutes.
Oui, dans la bouche de Guillaume Larrivée, votre collègue député,
bien évidemment,
les Républicains.
De même qu'on est très loin des risques eugénistes également. Non, nous sommes dans quelque chose qui est une évolution très modérée et dans laquelle nous ne sommes pas aventureux. Il n'y a nulle témérité dans ce qui va être décidé, puisque tous les sujets qui sont traités cette année ont été l'objet de législations positives dans la plupart des pays développés depuis 10, 20, 25 ans. Et donc on en connaît les conséquences, on sait encadrer, éviter tout dérapage, et donc il n'y aura aucun risque pris.
Jean-Louis Touraine, on reviendra justement sur cette comparaison internationale pour se demander si la France est en retard justement sur ces questions bioéthiques, mais vous vouliez réagir, Emmanuel Hirsch.
D'abord, je veux saluer le travail de Jean-Louis Touraine avec son rapport, il est important, et dire qu'on a une évolution effectivement tout à fait majeure en termes de maturité, et votre chapeau ainsi que les petites interviews du début en attestaient. C'est-à-dire qu'en 94, quand il y a eu la première loi de bioéthique, c'était une loi discutée entre sachants. C'était surtout les professionnels de la santé, les chercheurs, avec des politiques qui découvraient un peu un univers auquel ils n'étaient pas tous familiers, sauf quand ils étaient médecins. Donc on était vraiment dans une approche très biomédicale. Et on a une démocratisation du débat bioéthique, avec la précédente réflexion, c'est-à-dire sur la loi de 2011, mais qui était encore très liminaire et encore pas très aboutie. Et là, on a la chance, en France, d'avoir effectivement une politique intéressante par rapport aux questions de bioéthique, mais on a un comité consultatif national d'éthique qui a voulu et qui a organisé ces états généraux de la bioéthique. Donc, entre janvier et mai 2018, chacun a pu exprimer un point de vue. Donc, l'émergence d'une réflexion politique au sens où les gens s'approprient les questions de bioéthique, on est aujourd'hui à ce niveau, au niveau de la France. Et je trouve que c'est très très intéressant, maintenant qu'on va avoir fin août, début septembre, le débat parlementaire, au sens propre du terme, les arbitrages, ce qui va être intéressant, c'est les prises de position des uns et des autres, mais dans des domaines où il ne faudrait pas dire que l'assistance médicale à la procréation ou l'accès aux origines sont les sujets les plus importants. Pour moi, les sujets les plus importants, on en débattra dans les mois, dans les années qui viennent, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les nouveaux territoires de la bioéthique, les questions des neurosciences, Donc c'est des questions éminemment démocratiques et politiques, et il faudra que la société soit informée. Je termine juste sur un point, pour dire, on a souvent discuté avec Jean-Louis Touraine, l'important c'est pas uniquement la loi, c'est son accompagnement, et on pourra se poser même la question à un moment donné, c'est là où ce projet de loi est assez réussi. Il rappelle, si vous voyez la structure, les grandes valeurs de la bioéthique, l'anonymat, les solidarités, les valeurs d'humanité, notre démocratie, je ne vais pas toutes les décliner, mais l'important, ce sera que dans les mois qui viennent, le débat continue.
Alors on va rentrer dans le détail de cette loi de bioéthique, et peut-être que si on a un peu de temps à la fin de l'émission, on pourra parler de ce qu'il n'y a pas dans la loi avec vous, Emmanuel Hirsch. Mais juste un mot encore d'introduction, Jean-Louis Touraine, justement sur ce passage par la loi. Puisqu'en fait, on n'est pas obligé, la France passe par une loi de bioéthique qui est révisée tous les 7 ans, donc c'est la nouvelle norme en quelque sorte. La première était en 1994, ça vient d'être rappelé. Pourquoi faut-il en passer par la loi et ne pas laisser faire la jurisprudence, par exemple, sur des questions comme celle-ci ?
Oui, il n'y a pas d'obligation. C'est un choix français qui correspond un petit peu aux traditions juridiques françaises où, avec le droit qui est inspiré du droit romain, nous essayons généralement, devant des problèmes nouveaux, d'imaginer toutes les évolutions pour encadrer positivement ou négativement ces évolutions. Les anglo-saxons ont davantage tendance à reposer, eux, sur la jurisprudence, c'est-à-dire que une question se pose... un procès, par exemple, se développe et les conclusions servent de jurisprudence et permettent à l'avenir d'évoluer ainsi. Donc il y a plusieurs façons d'évoluer. La façon française a ses mérites. Regardons comment ça s'est développé. Au tout début, il n'y avait pas de loi jusqu'en 1994. Cependant, depuis 1983, le comité national d'éthique s'était penché sur beaucoup de sujets et avait émis des avis. Ces avis étaient des recommandations que chacun pouvait s'approprier, mais on pouvait aussi les transgresser sans conséquence. Et donc on s'est rendu compte à un certain moment que l'importance de ces sujets était telle, les menaces de ceux qui transgressaient certaines règles très importantes pouvait avoir des conséquences humaines dramatiques et qu'il était donc important qu'il y ait un encadrement avec des pénalités prévues pour ceux qui feraient des choses répréhensibles. Et c'est ainsi que la première loi a été votée en 94. Mais comme souvent dans notre pays, par une grande prudence, la première version de la loi, pour tout ce qui n'était pas déjà établi, comme les greffes, comme des différents domaines déjà installés, a essayé un peu par sécurité, par prudence, de choisir la voie de l'interdit. Et c'est ainsi qu'au début ont été interdits les recherches sur les cellules souches embryonnaires, sur l'embryon, sur beaucoup de domaines. Et puis, au fur et à mesure des années, quand on voit que les pays voisins qui pratiquent ces avancées depuis une vingtaine d'années ont pu encadrer cela sans inconvénient, alors on en trouve petit à petit des portes qui permettent d'avancer sans prendre de retard excessif dans ces progrès et dans surtout l'application à la population de ces progrès. Parce que de quoi parlons-nous ? Nous parlons des nouvelles techniques qui permettent de corriger des drames humains, que ce soit des maladies qui étaient hier mortelles et qu'aujourd'hui on peut soigner, que ce soit l'infertilité, l'absence de possibilité de procréer, que ce soit l'accompagnement à différents défis que l'on connaît dans la vie ou même dans la fin de vie. Et donc, grâce à ces lois, on peut avancer sans avoir d'inquiétude et avec un encadrement
tout à fait correct. Si je peux me permettre, Jean-Louis Touraine, une petite incidente, c'est juste d'observer que le défaut de loi a été criant quand même avant. Une des premières lois qu'on aurait pu dire de bioéthique, c'est la loi du 22 décembre 76 que Jean-Louis Touraine connaît bien sur les prélèvements d'organes. S'il y avait eu débat de société à l'époque, si on avait été comme aujourd'hui dans la prise en compte des différents points de vue, on ne serait pas, j'allais dire, 40 ans plus tard, avec les difficultés qu'on a dans l'information et l'appropriation de cette loi. C'est un point à prendre en considération. La première loi de bioéthique pour moi, c'est la loi du 20 décembre 88 sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. On était dans la tradition, en quelque sorte, du premier grand texte de bioéthique internationale, qui est le Code de Nuremberg en 1947. Tout ça pour dire à quel point la discussion est aussi importante que la loi. La loi, c'est des repères, à un moment donné. La spécificité de la loi de bioéthique, c'est son évolutivité, puisque la science évolue. Et c'est assez rare que finalement une loi soit révisée de manière spectaculaire, puisque toute la société est concernée.
La science évolue, mais la société aussi évolue.
Alors là, et c'est là où on a une loi importante, et je ne sais pas si on va aborder la question, mais la loi du 17 mai 2013 sur le couple, ce qu'on appelle le mariage pour tous, est une loi importante d'un point de vue sociétal. Et elle a eu un impact immédiat. Tout à l'heure, Jean-Louis Touraine parlait effectivement dans la première approche, notamment de l'assistance médicale à la procréation, c'était la stérilité naturelle, biologique. Là, maintenant, on parle de stérilité sociale. Donc, il y a des concepts qui émergent. Et maintenant, c'est l'accompagnement. Et je termine pour dire France Culture, en tant qu'auditeur, a suivi depuis des années le côté pluridisciplinaire. C'est-à-dire que dans l'approche de la bioéthique, c'est pas uniquement les médecins, les philosophes ou les éthiciens. C'est l'ensemble des composantes de la réflexion, j'allais dire, culturelle et sociétale. Et c'est là où il y a quelque chose de passionnant. Il y a très peu de sujets de société qui en appellent à autant de débats et débats sur les questions de fond. Et je termine sur un point. Quand le comité consultatif national d'éthique a lancé les états généraux de la bioéthique, il s'est interrogé sur quelle société voulons-nous demain? Quel type d'humanité demain? Voilà les vrais enjeux qui sont des enjeux à la fois politiques, j'allais dire, philosophiques, éthiques au sens propre du terme.
Oui, Jean-Louis Touraine, quand on pense à ces questions de bioéthique, il faut toujours se demander si la bioéthique doit suivre l'évolution de la société ou si, d'une certaine façon aussi, ceux qui sont en charge d'établir la loi doivent guider, d'une certaine façon, ces évolutions. On entend bien que c'est un juste milieu difficile à trouver, mais puisque Emmanuel Hirsch nous y invite, c'est vrai que là, la loi telle qu'elle se présente, elle s'ancre beaucoup sur les questions de filiation et de modification de la filiation et de la famille aujourd'hui en France, avec cette loi de 2013, qui avait vu apparaître une opposition très vive d'une frange de la société. On a parlé de la manif pour tous, on les a entendus en ouverture de cette émission. Comment est-ce que vous avez bâti la loi, ou est-il même possible de bâtir la loi, ou de répondre à aux questions bioéthiques telles qu'elles se posent aujourd'hui pour éviter les tensions telles qu'elles se sont manifestées en 2013?
Oui, tout l'art est justement de trouver cet équilibre entre, d'une part, un point de vue un peu approprié par le monde des sachants, qui en France pèse assez fortement, et puis une démocratisation où la société, informée, bien entendu, éclairée, peut émettre des vœux d'évolution. Il ne faut pas se réduire à l'un ou à l'autre. Vu du côté des pays anglo-saxons, la France est considérée comme encore un peu paternaliste et laissant certaines des décisions entre les mains d'experts ou de médecins, de scientifiques qui ont les données permettant de savoir quelles sont les conséquences. Ceci est en partie vrai, mais il y a eu une très grande évolution qui a été réalisée, et je crois que nous sommes justement aujourd'hui à la recherche de ce point d'équilibre. Je ne dis pas que nous l'avons trouvé, mais en tout cas, nous avons la volonté de trouver ce point. La meilleure preuve en est le succès des états généraux de la bioéthique qui a rassemblé beaucoup de monde, l'écoute qui en a été faite, mais aussi la relativisation de certaines positions un petit peu extrémistes qui parfois ont pu se tenir ici ou là dans ces réunions, parce que, bien sûr, quand on écoute tout le monde sur des sujets de cette nature, il y a les voies modérées, mais il y a aussi les voies extrêmes. Et évidemment, on n'évoluera pas dans la loi, dans aucune des deux voies extrêmes, ni de ceux qui veulent l'immobilisme, voire même le retour en arrière. Vous avez entendu que certaines personnes ne contestent pas seulement l'extension de la PMA à toutes les femmes, mais même le principe de la PMA, voulant nous ramener au milieu du XXe siècle, au moment où la procréation ne pouvait pas obtenir d'aide de la part des médecins pour les couples hétérosexuels stériles. Et donc, pour nous, il n'est pas question d'avoir un retour antérieur et de se mettre sous cet obscurantisme-là. Mais de la même façon, il n'est pas question de dire « parce que c'est possible, on va le faire ». Et on va donner autorisation à tout le monde d'avancer dans toutes les directions. Donc, il y a bien cette volonté. Donc, je crois que, si vous voulez, la bioéthique, c'est quand même une science très récente. Mais avant qu'elle existe, on en faisait, bien sûr. Tous les médecins faisaient de la bioéthique sans le savoir, que Monsieur Jourdain faisait de la prose. Et c'était au lit du malade que chacun des médecins faisait soi-même sa réflexion éthique. Aujourd'hui, celle-ci est construite et collective. Et c'est un point beaucoup plus important, parce que il y a toujours le risque, si c'est seulement le cerveau d'un médecin qui décide, que ça puisse être erronés, tendancieux, guidés par ses
juste
propres convictions.
Pour reprendre une de vos mentions, effectivement, on était dans l'ordre de la déontologie médicale. Et l'événement de rupture, ça a été la naissance d'Amandine en 1982.
Le premier bébé
était à l'origine de la création par François Mitterrand du Comité consultatif national d'éthique. Et on a vu, et le travail du comité est remarquable, il y a toute une élaboration, toute une construction, mais de qualité. C'est pas uniquement l'opinion qui est intéressant en matière d'éthique, c'est l'argumentation. Et de voir que les consciences, les opinions évoluent aussi. L'important aujourd'hui, c'est de voir ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, et voir aussi les conséquences de ce qu'on met en œuvre. Et c'est vrai qu'il y a d'abord des thèmes importants, et c'est pour ça que je trouve que le projet est bien construit. Il nous rappelle la notion de solidarité, toutes les valeurs constitutives de notre démocratie. Il ne faudrait pas que ça vulnérabilise des personnes, et tout ça est très très bien pris en compte. On verra notamment dans les questions de génétique. Mais ce qui me semble très très important, c'est qu'on puisse faire confiance dans les décisions qui sont prises et dans leur transposition dans la loi, sachant que c'est une loi évolutive. Et ce qui me sera pour moi important, c'est que chacun puisse s'exprimer dans les mois qui viennent au niveau de ses valeurs et de ses convictions. Parce qu'on veuille ou non, la bioéthique touche les valeurs de notre société, c'est-à-dire les valeurs de notre démocratie, à quoi on est attaché. Et dans un domaine où il y a de l'individualisme, de la complexité, une compétition internationale au niveau des recherches, donc très très peu d'éthique en pratique, je dis qu'il est très important que la France affirme les valeurs qui fondent sa conception de la bioéthique, qui renvoie quand même à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un défi politique et j'allais dire quasiment universel. Et je pense que ce rendez-vous est possible dans la qualité du texte tel qu'il est présenté.
Alors il est 13h, vous écoutez France Culture. On parle donc, vous l'aurez compris, de bioéthique avec Jean-Louis Touraine qui est député à l'REM du Rhône, qui est en ce moment en duplex depuis Lyon, depuis les studios de France 3 et qui a rapporté la mission d'information sur cette révision de la loi de bioéthique, et avec Emmanuel Hirsch ici en studio à Paris, professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. On a, comment dire, passé la première partie de l'émission à donner le cadre, on va dire, de cette loi de bioéthique, la spécificité de la France en la matière, l'importance de passer par la loi et un petit peu la philosophie qui a présidé Jean-Louis Touraine à cette révision. J'aimerais qu'on passe la dernière partie, la seconde partie de l'émission, un petit peu à rentrer dans le détail si vous le voulez bien, et en parlant notamment des enjeux liés à la filiation et à la procréation, puisqu'on l'a compris, c'est un des enjeux importants de cette révision. Il y en a d'autres également, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, mais puisqu'on parle de la question de la filiation, l'un des points importants, Jean-Louis Touraine, et qui fait débat, c'est la question du droit de connaître ses origines. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, enfin demain plutôt, après le vote de cette loi, si cette mention reste dans la loi, il y aura contrainte faite aux donneurs de révéler leur identité, pour en tout cas de faire connaître leur identité pour que les enfants nés de PMA aient accès à ces origines. Et donc, on est là dans une conception finalement de la filiation qui devient très biologique aussi. Vous ne trouvez pas, Jean-Louis Touraine?
Pas tout à fait, pas tout à fait. Je prolonge ce que disait Emmanuel Hirsch. Nous sommes là, typiquement, dans cet exemple concret, dans un point où, bien plus que les opinions, ce qui compte, ce sont les argumentations et le respect mutuel, le respect des points de vue différents. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Condorcet qui dit que la vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir. C'est très important de comprendre qu'ici, il n'y a pas une vérité absolue. Par contre, nous avons le devoir d'écoute. Le devoir d'écoute. Or, au début, la procréation, en utilisant un tiers donneur, s'est faite sur un paradigme qui disait « on cache tout aux enfants et à la société, ceci se fait dans le secret absolu ». Donc, les enfants naissaient, leurs parents étaient ceux qui les élevaient, mais ils ne savaient pas qu'il y avait eu un tiers donneur. Bien évidemment, ceci avait l'avantage que les parents ne révélaient pas à la société le manque de fertilité de l'un ou l'autre. L'inconvénient qui est apparu avec les années, c'est que ces enfants subodorent à un moment ou un autre le secret dont ils sont un peu victimes, le mensonge familial qui est construit, et comme dans tout ces questions de secret de famille, cela a fait des dégâts psychologiques assez importants chez certains d'entre eux, pas chez tous. Et la révélation très tardive, parce que on arrive toujours un jour ou l'autre à savoir la vérité, la révélation très tardive se faisait à un âge où il n'y a plus les mêmes facultés d'adaptation que chez l'enfant. Ceci a donc provoqué des dégâts psychologiques chez certains. De plus, avec l'avènement de la génétique moderne, tous ceux des enfants qui avaient un doute pouvaient très rapidement prouver qu'ils n'étaient pas les enfants biologiques, si on peut les appeler ainsi, de leurs parents, et qu'ils pouvaient rechercher le géniteur. Ceci est devenu extrêmement facile et ils accèdent par la génétique et la généalogie à l'identification de leur géniteur. Donc l'ancien modèle, non seulement n'était pas très souhaitable pour le développement de l'enfant, mais en plus il n'était plus tenable. Enfin, il avait un autre inconvénient qui est médical celui-ci, c'est que ces enfants étaient privés d'informations sur l'état de santé de leurs parents, biologiques, ou plutôt de leur géniteur. Et ceci, bien entendu, avait des inconvénients. Chacun d'entre nous, quand on va chez son médecin, on nous demande quels sont nos antécédents.
Les antécédents, évidemment. Et donc, vous avez réglé ça avec la question de l'information génétique facilitée.
Et je réponds donc à votre question en indiquant que il n'y a pas de contraintes prévues. Nous restons dans un cadre extrêmement libre. Simplement, on demandera au donneur de demain de n'être retenu comme donneur que s'il consente à donner des informations qui pourront être transmises à l'enfant. Et si plus tard, il désire communiquer ensemble, lorsque l'enfant aura 18 ans, s'ils veulent même se rencontrer, libre à eux de le faire,
évidemment.
Bien entendu, sans aucune contrainte, ni pour les uns, ni pour les autres.
Emmanuel Hirsch.
L'enfant n'aura pas de contrainte, le donneur n'aura pas de contrainte, les parents eux-mêmes n'auront pas de contrainte, simplement, les parents seront encouragés, je dis encouragés, pas contraints, seront encouragés à dire la vérité pendant l'enfance, sur le mode de progression, et s'ils ont de la peine à exprimer cela à un enfant en bas âge, ils auront la possibilité de recourir à des psychologues formés à cet effet.
Et Emmanuel Hirsch.
Pour faire plaisir au législateur qui est Jean-Louis Touraine, si en 1970, quand on a créé les centres d'études et de conservation des spermes, les SECOS, on avait eu la réflexion bioéthique qu'on a aujourd'hui, probablement qu'on n'aurait pas assimilé des gamètes au sang, puisque finalement, la grande difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est le fait que il y a eu anonymat, il y a eu gratuité comme grand principe, et on a assimilé le don de gamètes au don du sang. Et on voit très très bien qu'en matière de bioéthique, ce qui est intéressant, c'est d'anticiper l'impact d'une évolution scientifique d'un point de vue ne serait-ce qu'anthropologique. Ça, c'est le premier point que je voulais mentionner. Maintenant, il faut dire, et ça renvoie à ce que dit Jean-Louis Touraine dans les évolutions dans d'autres pays. Prenez l'exemple de la Suède. On est dans les années 80, vers 84. Et à ce moment-là, on responsabilise en quelque sorte le donneur de gamètes, puisque dès le départ, on va être sur la révélation possible. Alors, selon l'âge, selon les pays, puisque vous avez aussi d'autres pays, beaucoup de pays d'ailleurs, l'Allemagne, par exemple, est aussi un exemple. On dit c'est 16 ans quand la personne est en capacité de discernement, ça peut être 18 ans. Et vous avez un État qui m'intéresse, l'État de Victoria, donc on est en Australie, qui donne même la possibilité au donneur de savoir quel est son enfant, pour autant que l'enfant consente. Et un des grands principes, un principe fondamental en matière de bioéthique, c'est la notion de consentement. Et je pense qu'il y a effectivement, et c'est là on respecte les droits de chacun, il y a le consentement demandé au moment où la personne donnera ses gamètes, hein, que ce soit sperme ou spermatozoïde ou ovocyte. Il y a cette notion de consentement qui me semble tout à fait importante. Il y a cette notion de responsabilisation qui me semble importante. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80 000 personnes qui sont dans la situation aujourd'hui où elles pourraient aspirer à savoir quel est leur père. Dans toutes les législations qui ont été décidées par les pays, il y a une protection aussi du donneur de ne pas être assimilable à un parent, c'est-à-dire à un père par exemple, c'est-à-dire de ne pas avoir de devoir, j'allais dire, vis-à-vis de l'enfant. Donc on est dans des mutations qu'il faut accompagner. Je termine pour dire, on est dans des situations qui sont à bien des égards inédites. Et elles sont inédites. On n'a pas vraiment de repères. Donc on a en éthique pratique l'expertise de ce qui s'est développé dans des pays. Il faut qu'il y ait un cadre. Et les détracteurs de cette évolution disent oui, mais ça va démotiver des personnes et on se retrouvera dans une situation encore plus pénurique demain.
Oui, d'autant plus que cette obligation de déclaration devrait amener à détruire les stocks.
Voilà. Alors vous avez, prenez un exemple, vous avez aujourd'hui 250 000 embryons surnuméraires, pour prendre un exemple précis. Est-ce qu'on va les détruire ou pas? Ça posera un problème puisque pour reconstituer déjà ce fonds alors qu'on est déjà dans une situation de pénurie, ça pose des problèmes. Mais en tous les cas, pour terminer sur les observations qui sont faites dans les pays qui légiféraient dans ce domaine, grosso modo, on se retrouve quelques mois ou quelques années plus tard avec une évolution dans la motivation du donneur, donneur altruiste en quelque sorte, et finalement on se retrouve dans les bons équilibres. Mais c'est des questions en tous les cas anthropologiques qu'il ne faut pas rejeter comme ça d'un geste de la main en disant l'important c'est de faire l'enfant. C'est effectivement d'avoir aussi ce sens des responsabilités et des conséquences de ce qu'on met en œuvre.
Jean-Louis Touraine, vous insistez sur la liberté qui est laissée par la loi, en tout cas la révision telle que vous la portez. Il y a tout de même des couples qui ne se voient pas laisser certaines libertés. C'est les couples de femmes qui ont recours à la PMA, et notamment puisque la loi prévoit d'inscrire par une déclaration de volonté la filiation spécifique des enfants sur l'acte de naissance, c'est-à-dire que, on va peut-être pas rentrer tout à fait dans les détails, mais la filiation d'un couple de femmes avec leur enfant fera l'objet d'un titre spécifique du Code civil. Est-ce qu'il n'y a pas là une introduction d'une forme d'inégalité malgré tout ?
Oui, vous avez raison, c'est un point qui va être beaucoup débattu pendant ces semaines du mois de septembre et du mois d'octobre, où la loi sera analysée d'abord dans la commission spéciale, puis dans l'hémicycle. En effet, il y a plusieurs possibilités qui ont été déjà débattues entre les trois ministres concernés et le Conseil d'État. Et des points de vue divers ont été exprimés. Je crois que c'est une des choses sur lesquelles il nous faut trouver une formule qui permette d'éviter toute discrimination. Toute discrimination d'abord entre les enfants. Il y a un point soulevé par le Conseil d'État que je trouve tout à fait intéressant, qui dit à un moment donné, au bout du compte, il nous faut choisir si ce qui est prioritaire est l'intérêt de l'enfant ou si c'est l'intérêt des adultes. Malheureusement, quelquefois, le Conseil d'État, par juste tradition, a tendance à garder, et c'est compréhensible, l'état de la juridiction qui a prévalu jusqu'à maintenant. Je pense, moi, que si l'intérêt de l'enfant vraiment le demande, ceci est plus important que tout le reste. Parce que le législateur, lui, n'est pas le garant des textes anciens. Le législateur ne pense qu'à une chose, c'est à protéger les plus vulnérables, les plus fragiles.
Si je peux me permettre, Jean-Louis Touraine, question droit de l'enfant, accès aux origines, c'est aussi la Déclaration internationale des droits de l'enfant aussi, que de connaître ses parents. Donc on est effectivement dans cette notion de droit de l'enfant qui a été au tout début, dans les années 70, quand on a été finalement avec la création des SECOS, totalement négligé. Donc c'est un élément, une composante en termes de réflexion qui est à mon avis majeure.
Jean-Louis Touraine.
Et c'est des droits de l'enfant égaux. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne peut plus aujourd'hui être considéré, comme dans le passé, comme un bâtard, par exemple.
Mais si on inscrit sur son acte de naissance le mode de procréation, est-ce que ça inscrit pas justement une forme d'inégalité que vous déplorez à l'instant ?
Alors, ça ne sera jamais inscrit sur aucun extrait d'acte de naissance. La question est de savoir si, dans certaines conditions, sur l'acte intégral, que jamais nous ne consultons d'ailleurs les uns ou les autres, en tout cas qui ne pourrait être accessible que à la seule personne elle-même, donc jamais vue par un tiers, savoir si le mode de procréation mérite d'être signé. Mais il est important de savoir si tous les enfants nés par exemple avec un donneur doivent avoir tous exactement les mêmes droits et les mêmes modalités de traitement juridique pour qu'il n'y ait pas l'impression chez aucun d'entre eux qu'il a un traitement spécial, qu'il serait marginalisé, si vous voulez. Et donc je crois qu'on a cet effort à développer pour enrichir encore le texte qui est proposé et qui est déjà très, très bien élaboré, un texte qui va recueillir, j'en suis sûr, l'adhésion du plus grand nombre. Et il reste à définir sur quelques points de détail comment on peut encore améliorer cette égalité entre tous les enfants, ce droit pour chacun de ces enfants dans la filiation, dans la plénitude de ses droits. Je crois que c'est notre devoir de législateur et c'est le législateur qui est le plus responsabilisé dans cette protection de l'enfant.
Le débat va avoir lieu évidemment à l'Assemblée nationale et dans la société.
Touraine, Emmanuel, si la critique est faite souvent à l'évolution en matière de bioéthique, on dit on va vers la pente glissante, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de limites qui sont posées et on sait très très bien que demain les limites ne seront plus là. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la notion de vraisemblance, c'est-à-dire que pour l'enfant qui aura comme parent deux mères, en quelque sorte, pourra aussi s'interroger sur comment il a été conçu. Donc on a aussi cette responsabilité. Encore une fois, je pense que ce qui est intéressant en matière de bioéthique, c'est de poser le plus honnêtement possible les questions et d'accompagner les évolutions. Mais il faut qu'il y ait un cadre, ne serait-ce que pour protéger l'enfant, un cadre, on est dans un état de droit, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de la bioéthique, que de nous permettre de développer une intelligence collective de responsabilité, de solidarité auquel peut-être a priori on n'avait pas pensé. Dans un contexte d'individualisme, je trouve que nous renvoyer à une réflexion sur le bien commun, sur des valeurs qu'on partage, c'est pas sans intérêt.
Juste une toute dernière question, Emmanuel Hirsch, puisqu'on arrive au bout de cette émission. Cette suppression du critère médical d'infertilité, cette évolution de la filiation telle qu'elle se dessine aujourd'hui, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, c'est une évolution anthropologique. Il y a des craintes, hein, soulevées par exemple par la philosophe Sylviane Agacinski, de voir une évolution aller vers la marchandisation de la procréation, la marchandisation du corps. Évidemment, la GPA, encore une fois, la gestation pour autrui, n'est pas du tout dans la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, il y a des interrogations sur...
Regardez le courage. D'abord, on a la chance d'avoir Sylviane Agacinski qui tient un propos que des gens comme moi, par exemple, auraient du mal à tenir. Parce que de suite, on réfute le propos. Vous savez, ça renvoie vraiment au débat, qu'il est très très difficile de dire le fond des questions, si dans ce contexte, on est de suite réprouvé, rejeté et mis à l'index sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que sa position est une position fondamentale et qui participe du débat. Alors on peut y adhérer ou pas. Mais notez quand même qu'aux États-Unis, le marché de la fertilité, c'est 3,3 milliards d'euros. D'accord. Et regardez des sociétés comme Krios qui vendent des gamètes, sont des sociétés cotées et qui ont un impact extrêmement fort. Donc la vraie question, c'est est-ce que demain, et ça avait été abordé il y a quelques années par Henri Atlan, est-ce qu'il y aura un utérus artificiel et quelle va être notre conception du vivant, de la vie et de nos responsabilités de citoyens vis-à-vis de ces émergences inédites. Voilà, je trouve que c'est ça le débat bioéthique et merci à France Culture de permettre de nous le suivre aussi.
Eh ben écoutez, on va continuer de suivre ce débat, probablement avec vous, Jean-Louis Touraine et Emmanuel Hirsch. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première partie du magazine du week-end et merci au studio de Radio France à Lyon de vous avoir accueilli, Jean-Louis Touraine.
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Old Town Road, le titre de Lil Nas X avec la participation de la star Billy Ray Cyrus, la star de la country américaine, et un titre qui occupe depuis plusieurs semaines les premières places du Billboard, le Hit Parade. Cette rencontre de la country et du hip-hop a même battu le nombre de vues en streaming sur une semaine aux États-Unis sur la plateforme YouTube avec 143 millions de visionnages, de quoi lancer parfaitement notre deuxième partie consacrée aux États-Unis.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois. J'ai dit qu'on avait rendu sa grandeur à l'Amérique. Mais comment abandonner le plus grand thème, slogan de l'histoire de la politique pour un nouveau... Cependant, il y en a un nouveau qui fonctionne pas mal. Et il s'appelle « Garder la grandeur de l'Amérique ».
Tout le monde aime le président, car il est 100% américain. Il se soucie du peuple. Il est comme nous. Ce n'est pas un politicien qui dit des choses dont il sait que nous voulons les entendre. Il dit des choses et il fait des choses vraies.
Quand vous avez un gouvernement, quand vous avez une économie qui profite à ceux qui ont de l'argent mais pas à tous les autres, c'est de la corruption pure et simple. Nous devons dénoncer ça.
Si j'étais président aujourd'hui, je signerais un décret exécutif qui éliminerait la politique de tolérance zéro de Trump.
Des agents militaires du renseignement russe ont effectivement fomenté une attaque contre notre système politique, en s'attaquant à l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, en piratant ses ordinateurs et ses télécommunications. Après l'enquête, si nous avions eu la conviction que le président n'avait clairement pas commis un délit, alors nous l'aurions dit. Nous n'avons pas en revanche déterminé si le président a commis un délit ou non.
Quand on assiste à des crimes comme celui-là, quel que soit le groupe visé, il faut rétablir la peine de mort. Ils doivent payer le prix le plus fort possible. On ne peut pas accepter qu'ils fassent une chose pareille à notre pays.
Do what you can. Be more, be better, be bigger than you've ever been before.
Semaine chargée pour Donald Trump, le président américain a multiplié les tweets pour détourner l'attention de la très attendue audition du procureur Robert Mueller devant la Chambre des représentants, désormais dominé, rappelons-le, par les démocrates. Ces derniers entendaient bien profiter de ce témoin, un brin récalcitrant, pour faire connaître aux Américains le contenu de son enquête sur l'interférence de la Russie dans les élections de 2016 et sur l'éventuelle obstruction de justice commise par le président des États-Unis pour l'empêcher de poursuivre ses investigations. On s'en souvient, au moment de sa restitution, le procureur Mueller n'avait pu incriminer le président, protégé par la loi contre toute poursuite criminelle, sans pour autant le dédouaner. Mais ceux qui espéraient trouver là les bases d'une procédure d'impeachment ou même d'affaiblissement du président en ont été pour leurs frais. Pour reprendre l'expression d'un autre président français, celui-ci, l'audition a fait pchit, montrant encore une fois la force de résilience de Donald Trump, qui se tourne désormais résolument vers les élections de 2020. Il a d'ailleurs donné le ton de ce que serait sa campagne en prenant violemment à partie 4 parlementaires dans des tweets, encore une fois, des tweets racistes qui questionnent leurs origines et leur fidélité aux États-Unis. Une tactique doublement payante, sa cote de popularité est remontée de 5 points auprès de ses sympathisants républicains et il enfonce un coin supplémentaire au sein de l'opposition démocrate. États-Unis d'une campagne, l'autre, c'est notre second sujet du jour. Deux invités en studio ici à Paris. Une invitée d'ailleurs, Laurence Nardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI et auteur cette année de Les États-Unis de Donald Trump en 100 questions. C'était aux éditions Talendier, donc publié en octobre dernier. Et en duplex depuis les États-Unis, depuis l'université de Dartmouth dans le New Hampshire. Je pense que c'est une première pour nous. Yasha Mung, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, professeur des universités à l'université John Hopkins à Baltimore. Et vous avez publié, c'était aussi à la rentrée 2018, Le peuple contre la démocratie aux éditions de l'Observatoire. Il en avait été largement question sur cette antenne. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet sur cette question de la campagne présidentielle qui s'annonce et de celle qui continue de hanter la campagne de 2016, qui continue de hanter la politique américaine, justement, il y a une information qui est tombée aujourd'hui, qui a été donnée dans le journal tout à l'heure, Yasha Mung, c'est cette décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser l'administration Trump à aller utiliser 2,5 milliards d'euros, je crois, 2,5 milliards de dollars plutôt, puisque c'est plutôt en dollars qu'il faut parler, dans le budget du Pentagone pour construire le mur entre la frontière américaine et à la frontière Amérique-Mexique, une promesse évidemment de la campagne de Donald Trump. Comment est-ce que vous recevez cette décision de la Cour suprême qui vient rappeler encore une fois que voilà, cette campagne de 2016, elle continue d'hanter au quotidien la vie politique américaine aujourd'hui?
C'est une des signes qu'ont fait beaucoup des obstacles qu'on pensait que les cours poseraient peut-être à la politique de Donald Trump ne se sont pas réalisés. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que probablement la Cour suprême supprimer cette décision. À la fin, ça apparaît que Trump peut bien utiliser ce parti du budget militaire pour ce projet plutôt civil de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Au même temps, il faut dire que construire un vrai mur selon toute la frontière mexicaine coûterait beaucoup plus que ces 2 ou 3 milliards qui sont maintenant permis par la Cour.
Oui, Laurence Nardon, c'est vrai qu'à l'élection de Donald Trump, on avait dit il y a beaucoup de contre-pouvoirs, de check and balance aux États-Unis, et notamment des institutions très très fortes, la Cour suprême évidemment, d'autres institutions comme le Congrès ou le Sénat américain qui viennent contrebalancer. On a l'impression que après 3 ans de présidence Trump, que tout ça est en train de tomber un par un.
Oui, effectivement, la puissance des contre-pouvoirs était très très importante au début. Comme vous l'avez dit, il y a la presse aussi d'ailleurs. Et puis on a un peu l'impression que les choses, que les combattants s'épuisent et ça laisse quand même un petit peu dubitatif à l'idée d'une possible victoire de Trump en 2020. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passera pendant 4 années encore si on a une Cour suprême qui maintenant est à domination conservatrice, si le Congrès n'arrive pas à tenir tête, ça va être assez... compliqué.
Oui, alors évidemment, cette question du mur, elle pose la question qui est centrale aujourd'hui dans la politique américaine de l'immigration. Alors, on y reviendra au cours de cette émission, si vous le voulez bien, quand on se tournera vers la campagne de 2020. Mais avant cela, encore un mot de la campagne de 2016 et donc de cette audition Yashamung cette semaine de Robert Mueller qui fait le lien entre ces deux élections. Est-ce que les démocrates ont mis, selon vous, trop d'espoir dans cette audition et sortent donc affaibli politiquement, puisque il faut le dire, hein, Robert Mueller n'est absolument pas sorti de son rapport, il n'a pas apporté les réponses. Les démocrates disaient on a eu le livre que personne n'a lu, c'est-à-dire le rapport Mueller, on va leur faire le film et ça va intéresser les Américains. On a l'impression que tout ça est un petit peu tombé à l'eau, ça peut retomber comme un soufflet, Yashamung.
Oui, tout à fait. Bah, ce qui pour moi est le plus frappant, c'est la différence entre l'image qu'on gagne de la présidence Donald Trump si on regarde les journaux ou si on regarde son taux d'approbation. Alors, selon les journaux, chaque jour change tous. Si on regarde qui l'aime et qui l'aime pas, ça n'a pas du tout changé plus ou moins depuis les 2016. L'idée qu'une apparence de Robert Mueller pourrait changer tous était toujours, selon moi, un peu naïve. Et alors, il faut comprendre que ce processus de impeachment est un processus politique, qu'à la fin, on a besoin de la majorité dans la Chambre des députés et de 2/3 des sénateurs pour remover Trump de sa charge publique. Certainement, ça n'était pas réaliste avant cette semaine et ça n'est plus du tout réaliste après cette semaine. Ça veut dire que la seule manière dans laquelle nous pouvons nous sauver de ce président est de le battre de manière démocratique l'année prochaine quand il y aura des élections présidentielles.
Dans les urnes, et s'il accepte de quitter le pouvoir, parce que il me semble qu'il avait émis plus ou moins l'idée que s'il était battu, ce serait forcément dans une élection illégale et que donc il n'était pas sûr de quitter le pouvoir. Laurence Nardon.
Oui, sur l'audition de Robert Mueller cette semaine, c'est un peu comme sur d'autres sujets aujourd'hui dans ce pays extrêmement polarisé que sont les États-Unis. C'est-à-dire que quand on est dans le camp progressiste ou dans le camp conservateur, en fait, tout événement est un peu comme un test de Rorschach. C'est-à-dire que quand on a lu les journaux le lendemain, pour les démocrates les plus optimistes, il y avait enfin des smoking guns, en fait, des éléments concrets qui restaient et qui incriminaient le président. De l'autre côté, c'était une vision totalement inverse.
Et au final, président totalement absous par
absolument.
Par Robert
Mueller. Donc, Mueller ayant d'ailleurs dans l'audition changé d'avis sur certains points. À un moment, il a été un peu flou sur et un peu fatigué. J'ai trouvé
très à l'aise. Oui.
Et du coup, ce qu'il disait a pu être interprété vraiment de deux manières différentes. Mais je crois que Yashamung a raison. Les choses sont un petit peu finies pour le camp des impeachers, des partisans de l'impeachment du président. Surtout que maintenant, le Congrès est en congé d'été. Et donc, les choses vont un peu retomber et ce sera difficile de repartir là-dessus à la rentrée.
Oui, malgré tout, elle risque, ce rapport Mueller et cette audition risquent tout de même d'alimenter encore la vie politique. Laurence Nardon, c'est Jet Air, je ne sais pas vraiment comment le dire, quelques correspondants de The Nation, qui voyaient cette semaine dans l'audition de Mueller une représentation de ce que serait la campagne électorale, c'est-à-dire des démocrates qui vont chercher des munitions, des smoking guns, comme vous l'avez dit, Laurence Nardon, en permanence dans cette dans ce rapport Mueller et des républicains qui vont crier au complot pour détourner l'attention.
Oui, mais je crois que cette césure, elle est également au sein du camp démocrate, puisque parmi les démocrates, il y a aujourd'hui une explosion idéologique qui fait qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent et on va voir ce qu'il en sort à la fin des primaires. Mais sur cette question de l'impeachment, il y a au sein des démocrates des partisans d'un affrontement total avec Trump. Et peut-être que sur le fond, ils ont raison. Mais il y a aussi des partisans d'un apaisement, des gens qui pensent que pour des raisons tactiques, il est peut-être plus intelligent de chercher à oublier cette histoire et de proposer au contraire un projet pour l'Amérique positif, concret, pour mieux rallier les électeurs. Et donc cette césure, elle existe aussi au sein des démocrates.
Yesh Abounk, il faut peut-être rappeler rapidement à nos auditeurs, même si c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, de ces questions d'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Rappelez ce que a montré le rapport Mueller, donc 22 mois d'enquête, 19 juristes mobilisés, 40 agents du FBI, 448 pages à l'arrivée, qui attestent bien d'une ingérence systématique et de grande envergure de la Russie dans les élections de 2016, mais qui ne parvient pas à établir un lien direct avec Donald Trump. Alors évidemment, il y a la complexité, la subtilité juridique de ce type de rapport, de ce type d'objet qui permettent à chacun de lire un petit peu, tel le test de Rorschach qu'évoquait à l'instant Laurence Nardon, de délire un petit peu ce qu'il veut. Et c'est donc un objet quoi, difficile à manipuler politiquement.
Oui, une des difficultés, c'est que c'est assez clair qu'il avait beaucoup de contacts entre la campagne de Donald Trump et variés personnages russes. Il y a aussi ce que Trump a dit publiquement, en invitant, en rigolant, peut-être pas en rigolant, la Russie à lui aider. Et ça, c'est la première partie de ce report. Et la deuxième partie, c'est toutes les choses que Trump a fait pendant l'investigation pour l'empêcher. Et c'est vraiment là où la grande faute de Trump, pour moi, est assez claire, qu'il a essayé d'empêcher la justice à prendre sa cour. Mais évidemment, ça, c'est politiquement un peu compliqué d'expliquer à voteurs que peut-être, à la fin, Trump n'était pas de manière vraiment claire culpable d'être aidé par la Russie, mais il était après coupable d'empêcher l'investigation sur le fait duquel il n'était pas coupable. C'est évidemment quelque chose qui est politiquement compliqué. Je voulais juste pour un moment revenir sur cette question des démocrates parce que je suis plus ou moins d'accord.
On y consacrera du temps, vous inquiétez pas, Yesh Abounk, mais allez-y, je vous en prie.
Très bien. J'ai juste une petite différence dans l'interprétation de ce que se passe. Je crois que c'est assez clair que tous les démocrates veulent s'opposer à Trump de manière nette et très claire. Il n'y a pas de sympathiseurs de Trump dans le camp démocratique, sans doute. Et je crois que même les modérés dans le parti sont très clairs qu'on gagnera jusqu'à ces élections en faisant un argument moral sur qu'est-ce que c'est qui ne va pas bien avec Trump. Mais il y a une question quand même idéologique et politique. Est-ce qu'on va contre-proposer quelque chose qui est un consensus dans une grande part de la population? Si on parle par exemple de l'assurance de santé, de créer une option publique qui permet à tous les Américains d'avoir une assurance médicale. Ou est-ce qu'on va au-delà de ce consensus, par exemple en supprimant la possibilité d'avoir aussi d'assurance privée? Et c'est là où la bataille entre les différents camps démocrates est en train d'éclater.
Oui, la question évidemment de l'aide sociale sera importante. Laurence Nardon, on va y revenir, si vous voulez bien, un peu après à ce qui se passe en ce moment dans le Parti démocrate, parce que c'est très intéressant et très important. Il y a un débat qui s'annonce le 30 juillet, justement, entre les candidats démocrates. Mais juste un mot, juste sur ce que vient de dire Yesh Abounk, sur ce deuxième volet de l'obstruction à la justice du rapport Mueller. Mueller a dit, si on avait pu dédouaner complètement le président, on l'aurait fait. Et ensuite, il a dit, mais en toute façon, on ne pouvait pas inculper le président, se réfugiant derrière un mémorandum. Alors, si je me suis bien renseigné, un mémorandum émis par le Bureau des affaires juridiques du département de la justice en 1973, selon lequel un président en exercice ne peut pas faire l'objet de poursuites criminelles. Il y a quand même des discussions juridiques sur cette protection qu'offre ce mémorandum au président américain.
Oui, et c'est là que l'interprétation progressiste permet de conclure que oui, le rapport Mueller ne dédouane pas Trump de cette charge d'obstruction à la justice, donc puisque comme le disait Yashamung tout à l'heure, il y a collusion et obstruction qui lui sont reprochées, enfin en tout cas sur lesquelles l'enquête portait dans le rapport. Et du coup, effectivement, ce mémorandum de 1973 semble dire que c'est parce que le procureur Mueller n'avait pas le droit de condamner le président qu'il ne l'a pas fait, mais sinon il l'aurait fait. C'est ça l'interprétation des progressistes. Et puis évidemment, de l'autre côté, vous avez les conservateurs qui pensent tout autrement. Voilà, ce sont toujours des questions très complexes et ouvertes à interprétation. C'est le problème.
Alors ça semble évident dans la vie politique, il y a cet antagonisme évidemment, par exemple, entre conservateurs et progressistes, comme vous venez de le rappeler à plusieurs reprises, Laurence Nardon. Mais il y a une tradition quand même politique aux États-Unis qui est la tradition du bipartisanship, c'est-à-dire d'approche bipartisane sur un certain nombre de sujets. Or, Yashamung, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de radicalisation, de montée aux extrêmes de la politique aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, et qu'en quelque sorte, que ce soit entre démocrates et républicains, clairement, on ne peut plus travailler ensemble, on peut à peine se parler, et que même au sein des différents camps, que ce soit au sein des camps républicains, même si les anti-Trump au sein du camp républicain sont de plus en plus affaiblis par la réussite de Donald Trump, la réussite notamment économique, et que dans le camp démocrate, on voit aussi des divisions voir le jour. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique qui se fait complètement différemment aux États-Unis parce que justement, il n'y a plus cette possibilité bipartisane?
Bah, pour le moment, certainement, il n'y a pas la possibilité d'une politique bipartisane. Le Parti républicain est complètement capturé par Donald Trump, au moins dans ceux qui disent le député publiquement, ceux qu'ils disent de manière private est assez différent beaucoup de fois. Mais ça veut dire que certainement pour les prochains 18 mois, il n'y a pas la possibilité des grands projets de loi ou d'autres choses sur lesquelles il y a un consensus. Parce que pour Trump, tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui, ça n'est pas juste un opposant politique, c'est un ennemi. Et c'est ça, une des caractéristiques typiques des populistes comme Donald Trump. Mais je crois que la grande question pour les démocrates maintenant, c'est est-ce qu'on utilise ce moment dans lequel il y a un président qui est très impopulaire pour mettre en avant un candidat qui est aussi radical, qui peut transformer le pays quand il ou elle gagne la présidence, ou est-ce qu'on essaye de créer le nouveau consensus de la société? Est-ce qu'on met en avant quelqu'un qui peut beaucoup changer, mais d'une manière dans laquelle 70% de la population est d'accord avec ça? Et moi, pour être honnête, j'ai une nette préférence pour la deuxième option, parce que j'ai beaucoup de peur de qu'est-ce que se passe si les démocrates mettent en avant quelqu'un qui est aussi bien au dehors du mainstream comme Donald Trump et perdre les élections en 2020. Et j'ai aussi peur de ce qui pourrait arriver si les démocrates gagnent avec un président qui sera bientôt aussi impopulaire que Donald Trump, et ils gagneront en 2024 un autre populiste autoritaire, peut-être plus capable, plus stratégique de Donald Trump. Alors pour moi, c'est ça la question plus importante des prochains 6 mois. Comme vous avez remarqué, je suis dans le New Hampshire ici. C'est une peculiarité que les Français ne connaissent pas peut-être. C'est toujours le deuxième État des États-Unis qui a les primaires. Alors la question de qui va représenter ce parti et est-ce que ce personnage va être capable d'incarner un consensus sociétal anti-Trump, pour moi, est crucial dans ce moment.
Alors, Laurence Nardon, définitivement, vous avez tous les deux très envie de parler des démocrates, donc parlons-en. En effet, il y a ces deux lignes qui s'opposent et c'est qui s'ancre notamment dans la réflexion sur pourquoi est-ce qu'Hillary Clinton a bien pu perdre face à Donald Trump il y a 3 ans maintenant. Certains disent elle n'a pas été assez radicale, il aurait fallu un Bernie Sanders beaucoup plus radical dans ses propositions. D'autres, évidemment, soulignent la façon dont la campagne s'est passée. Est-ce que vous êtes, comme Yashamung, inquiète de voir la solution radicale l'emporter lors des prochaines primaires?
Oui, d'abord, Hillary Clinton a gagné quand même 3 millions de voix de plus que son adversaire.
Enfin, oui, mais le système américain fait on ne va pas refaire la constitution américaine.
Effectivement, alors sur la question de L'explosion idéologique au sein du Parti démocrate aujourd'hui, il y a effectivement ces tendances entre des candidats assez radicaux et des candidats assez plutôt qui restent plutôt modérés. Et ça, on le voit sur à peu près tous les sujets. Donc, Yashamung parlait tout à l'heure des programmes de réforme d'assurance santé. Donc là, c'est un sujet sur lequel il y a des modérés et des radicaux. Mais c'est aussi sur toutes les autres questions. Donc l'économie, avec les radicaux qui veulent revenir sur le dogme libéral de l'économie américaine qui est vraiment dominant depuis les années 80, avec l'idée de rendre à l'État ce qu'il avait auparavant, c'est-à-dire une légitimité à réguler l'économie et un certain nombre de domaines de la vie sociale, et aussi la puissance de l'État de redistribuer, une puissance redistributrice avec une réforme fiscale à l'appui, etc. Donc il y a déjà cette première césure sur les questions économiques entre libéralisme et une certaine forme de politique, on va dire, social-démocrate. Et puis il y a une autre scission idéologique qui est sur les questions, on va dire, sociétale. Les questions de multiculturalisme, d'immigration, la question des réparations qui est extrêmement importante dans cette campagne.
Les réparations contre l'esclavage.
Exactement, qui est un véritable sujet cette fois-ci, alors que jusqu'à présent, ça n'avait jamais été un sujet. Et là aussi, avec des candidats modérés et radicaux. Et alors, ce qui est vrai, c'est que dans une campagne de primaire, les candidats ont tendance à aller vers les extrêmes pour séduire l'électorat des primaires, qui par nature est un électorat très motivé pour le parti, donc plutôt à gauche. Alors même que l'électorat démocrate, pourtant super mobilisé contre Trump, il est allé voter en novembre dernier, il va aller voter en 2020, ça va être vraiment très important. Mais cet électorat très mobilisé contre Trump n'est pas nécessairement très radical. C'est parce que vous détestez Trump que vous êtes forcément très très à gauche. Et donc effectivement, le piège, c'est que un candidat démocrate trop radical fasse peur à une certaine partie de son électorat. Et ce piège, Trump l'a bien vu, hein, quand il fait ses tweets contre les quatre démocrates du Congrès, ses tweets
Alexandria Ocasio-Cortez, Aina Presley, Rachida Tlaib et Ilhan Omar, qui sont donc ces quatre députés,
l'escouade. Quand il fait ce tweet raciste contre elle, la conséquence, c'est qu'évidemment, tous les candidats démocrates sont amenés à prendre parti contre ce président raciste, etc., à radicaliser leur discours. Il a très bien compris, en fait, Trump est un instinct politique formidable, et donc il va essayer de faire tomber les démocrates dans le piège de la radicalité.
Oui, rappelons ce tweet, Yashamung, intéressant de voir que des élus progressistes démocrates qui viennent de pays les plus catastrophiques, les plus corrompus, dire comment notre pays doit être gouverné, pourquoi elles ne rentrent pas d'où elles viennent. Donc il s'adressait à ces quatre femmes, à ces quatre représentantes du Congrès qui avaient vertement critiqué sa politique d'immigration et notamment à la frontière mexicaine, les centres de rétention et les conditions dans lesquelles les enfants, les femmes, les hommes sont retenus là-bas et sont évidemment des circonstances et des façons de détenir qui sont absolument inhumaines, et ça a été reconnu largement à la fois par la presse, par les organisations internationales. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Yashamung, une tactique électorale qui semble réussir et qui interroge sur cette normalisation du racisme aux États-Unis aujourd'hui?
Oui et non, je ne crois pas que la tactique est de normaliser le racisme. En fait, la plupart des Américains, et c'est très clair des sondages, n'a pas aimé ce tweet, ils étaient largement contre. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas que l'Amérique est un pays raciste. Il y a certainement des racistes aux États-Unis, comme il y a aussi des racistes en France, mais la plupart de la population n'aime pas ce manière des attaques racistes contre ses députés dans le Congrès. Dans ce sens-là, ça semble d'être stupide de Trump de tweeter quelque chose comme ça. La logique est un peu différente. La logique est qu'il peut se permettre de ne pas être aimé pour ce tweet s'il a succès en rendant ces quatre députés le visage du Parti démocratique. Et la logique des dernières semaines, c'est que même des gens qui ont des critiques légitimes contre ces quatre députés ne se sont plus capables de les critiquer. Et alors du coup, Trump a eu succès en choisissant son ennemi, son opposant. Et ça, c'est très dangereux pour le 2020. Alors pour moi, j'essaie toujours à mettre en avance l'idée qu'on doit défendre nos principes même si l'opposant ne le veut pas. Alors, par exemple, le moment dans lequel Donald Trump dit que Nicolas Maduro, le dictateur en Venezuela, est un problème, il y a une grande partie du Parti démocratique qui commence à dire bah, peut-être en fait il faut défendre Maduro. Parce que si Trump n'aime pas Maduro, ça doit dire qu'il y a quelque chose de positif en Maduro. De la même manière, on a vu une vidéo hier de Ilhan Omar qui dit il faut avoir plus peur des hommes blancs parce qu'en fait c'est eux qui sont responsables pour une plupart de la violence en Amérique. Pour moi, ça, c'est un sentiment communautaire inacceptable. C'est d'ailleurs aussi pas vrai sur les faits. Mais il n'y a aucun responsable politique dans le Parti démocratique qui a publiquement dit que ça n'est pas la manière dans laquelle on parle de notre co-citoyen dans ce pays. Parce que Trump a eu succès en rendant tabou des attaques de critiques contre ses députés. Et c'est ça son grand succès.
Oui, on voit comment Donald Trump en joue. Par exemple, Laurence Nardon, récemment, quand il y a une opposition entre Nancy Pelosi, qui dirige donc le Parlement américain, la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est une démocrate et qui s'était opposée à Alexandria Ocasio-Cortez, qui est donc cette représentante qui monte, une jeune représentante américaine radicale qui monte aux États-Unis. Et on a vu comment Donald Trump a apporté son soutien à Nancy Pelosi, disant que Alexandria Ocasio-Cortez n'avait pas lui parlé comme ça, et puis de son côté, Alexandria Ocasio-Cortez menait presque à dire que Nancy Pelosi était raciste, enfin en tout cas tenait des propos racistes, et donc on voit comment Donald Trump parvient à radicaliser encore une fois la politique, et notamment les oppositions dans le camp des démocrates.
Oui, ça va être sa tactique dans les mois qui viennent, ça va être de tenter de radicaliser au maximum le Parti démocrate afin de compliquer l'élection d'un candidat démocrate en 2020. Oui, c'est vraiment ce qu'il est parti pour faire, on vient de le dire. Et je crains qu'il ne soit très... comment dire, successful, qu'il ait beaucoup de succès, réussisse. Pardon, dans cette entreprise, parce que il est très fort et les adversaires de Trump. Bon, reparlons du Parti républicain un moment. Il y a plus une oreille qui bouge dans les lapins du Parti républicain aujourd'hui. Ils sont tous absolument figés devant Trump. C'est pareil côté démocrate, on le voit. Il a une grande force. Dans sa communication, dans ses messages. Enfin,
oui, il maîtrise évidemment la communication. Il a aussi des résultats économiques dont il peut se prévaloir, Laurence Nardon, c'est-à-dire.
Et oui.
Voilà, un chômage réduit à presque rien, une croissance qui s'établit à 3,2% au premier trimestre 2019, bien plus que prévu.
Et surtout, la remontée des bas salaires que l'on constate depuis 10 mois d'affilée en avril 2019. Or, ces bas salaires, ils étaient restés coincés, ils n'étaient pas remontés depuis la crise de 2008. Si on lit les travaux de Piketty, on voit que le pouvoir d'achat des classes modestes et pauvres aux États-Unis est resté le même depuis les années 70. Donc ça, c'était un gros problème pour les Américains déjà, et puis aussi un gros argument pour les tenants d'une réforme économique dont
on disait la croissance n'est pas répartie, quoi. Il y a de la croissance très bien, mais tout le monde n'en profite pas de la même façon.
Voilà, puisque c'était les 1% du haut qui en profitaient, donc c'était l'argument du mouvement Occupy Wall Street en 2013, puis de Bernie Sanders et d'une certaine manière de Trump lui-même qui disait que lui il allait rendre sa mobilité sociale aux classes moyennes, et le fait que il réussissent, puisque c'est à lui qu'on l'attribue, peut-être à tort, mais enfin bon, la remontée enfin des bas salaires, ça vide de sa substance un certain nombre des arguments des démocrates.
Yachemon, qu'est-ce que ça veut dire que les démocrates vont être obligés de choisir entre des arguments, on va dire, sociétaux et des arguments économiques, ou est-ce qu'il y a quand même la possibilité de faire émerger un candidat et un discours politique qui mélange les deux et qui puisse s'en prendre, en tout cas s'attaquer à la politique telle que l'amène Donald Trump depuis un certain nombre d'années?
Moi, personnellement, je suis assez convaincu que les questions sociétales, culturelles, sont plus importantes dans ce moment que ceux économiques. Pas peut-être plus importantes d'une manière objective, mais certainement dans les sentiments des électeurs. Alors pour moi, c'est premièrement une bataille sur ce champ, et la question c'est si les démocrates peuvent utiliser le grand dédain que quand même une majorité des Américains a contre les sentiments culturels de Donald Trump en présentant une alternative claire et nette qui s'oppose à Trump sans vergogne, mais qui n'est pas extrémiste, qui n'est pas hors du mainstream soi-même. Et s'ils ont succès sur ça, ils peuvent, après qu'ils avons neutralisé le champ culturel, gagner sur le champ économique. Et c'est assez clair que sur le champ économique, en fait, il y a une manière de consensus plutôt social-démocrate aux États-Unis. Il y a maintenant une majorité des gens qui veulent des taux, des taxes sur les riches plus hautes. Il y a une majorité des Américains qui veulent l'assurance médicale pour tout le monde. Il y a une majorité des Américains qui veulent contrôler de manière beaucoup plus étroite les banques et les grandes firmes de Wall Street. Mais si on met en avance un candidat qui se nomme socialiste, ce qui est beaucoup plus radical aux États-Unis qu'en France, si on met en avance quelqu'un qui dit je veux supprimer l'assurance médicale qui est utilisée aujourd'hui par la majorité des Américains, si on met en avant quelqu'un qui dit je suis contre le capitalisme, alors à ce point-là, je crois que les républicains vont gagner. Et c'est la même chose sur les manières culturelles.
Merci beaucoup Yasha Munk d'avoir été avec nous, je le rappelle, en duplex depuis l'université de Dartmouth dans le New Hampshire. Merci à vous aussi Laurence Nardo d'être venue ici. Merci. En studio à Paris pour nous éclairer sur ce que va être cette campagne américaine qu'on va suivre évidemment comme chaque fois avec beaucoup d'intérêt. Le magazine du week-end s'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h40. Il sera question de réchauffement climatique avec Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC, et des 60 ans du ministère de la Culture avec Bernard Latarger, Nicolas Bruyot et Jean-Paul Angot. Merci à toute l'équipe, Chloé Rossignol pour la programmation, Hugo Boursier à la coordination, Lisa Sorel et Benjamin Teinturier à la préparation, à la réalisation aujourd'hui c'était Charlotte Roux, à la prise de son Jacques Hubert. Dans quelques secondes et même tout de suite, il est 13h50 sur France Culture, le temps de retrouver les idées claires par Nicolas Martin. Aujourd'hui, le lobby LGBT existe-t-il ?